Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour Erdivois sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Aujourd'hui, je suis à Luc-en-Divois avec Gabriel Goubet, réalisateur strasbourgeois qui est venu présenter le 16 août, lors de la fête du village de Valdrome, un documentaire réalisé avec 5 seniors de ce village et qui nous a fortement émus. Gabriel, bonjour.
Salut.
Alors, j'ai tenu à t'interviewer car ce film a trouvé un fort écho en moi qui a accordé beaucoup d'importance à la parole donnée à autrui. Et en donnant la parole à 5 seigneurs de Valdrome, c'était très émouvant. D'ailleurs, ce film a eu un franc succès. Et je voudrais savoir si donner la parole aux gens, c'est important pour toi en tant que réalisateur de film.
C'est le cœur de mon métier. Et là, c'était la commande de Jeannot Aramburu, le maire de Valdrome, qui est venu me voir et qui m'a dit que dans le cadre de la rénovation du temple protestant, il souhaitait avoir un film dans lequel on ferait parler les anciens du village. Donc moi j'étais très enthousiaste de ce projet. Je ne suis pas de Valdrome, hein, je ne suis pas un natif. Ma mère a acheté une maison là-haut il y a 10 ans. Et donc je viens tous les mois d'août. Et j'ai trouvé que c'était une idée super. En plus, il y avait pour moi un vrai plaisir de cinéaste à filmer les alentours, le village, voilà. Et puis après, par rapport au fait de recueillir la parole des gens, moi, ça fait partie de... C'est mon cœur de métier. C'est ce que je fais en permanence. Je passe ma vie à filmer des gens. Des fois, ils sont artistes. Des fois, c'est monsieur, madame, tout le monde. Ça dépend quel type de film j'ai à faire. Si je travaille pour la télé ou si je suis sur un projet personnel. Mais c'est vraiment le cœur de mon métier. Et j'ai beaucoup réfléchi, depuis une quinzaine d'années que je fais ça, à comment justement obtenir le meilleur. Quand j'ai débuté, j'étais pas très bon. J'ai raté plein de choses en interview. Et puis c'est venu progressivement. J'ai su décrypter le rapport que les gens pouvaient entretenir à la caméra. Quand tu veux filmer quelqu'un et que tu as rendez-vous avec cette personne-là pour qu'elle te parle, les gens, ils se sont projetés dans le fait d'être filmés. Donc, ils ont des choses à dire. Et bien souvent, je ne pose pas de questions au début. Je leur laisse dire ce qu'ils ont à dire. Parce qu'ils ont envie de réaliser aussi et de répondre au fait d'être filmés. Ils ont envie de le réaliser. Ils ont besoin de le réaliser. Donc, il y a plein de gens comme ça où je sens qu'ils ont... une sorte de discours à donner, et je les laisse d'abord étaler ce discours entièrement. Et puis après, on rentre dans la discussion. Et pour le film, pour ce film-là, Valdrome entre ciel et lavande, j'ai fait des entretiens avec deux dames et 3 messieurs, et à chaque fois, on a parlé entre 1 et 2 heures. À la fois, des fois, j'ai dirigé un peu l'entretien, d'ailleurs dans le film, on l'entend, des fois, je fais des petites relances, mais la plupart du temps, les gens, on a pris rendez-vous pour ça, donc ils y vont, quoi. C'est ça qui est bien. Et puis ce qui est super aussi, c'est que ces gens, ils ont tous plus de 80 ans. Et quand on a 80 ans passés, il y a un phénomène qui est universel, hein, ça concerne tout le monde, c'est qu'on a des souvenirs d'enfance qu'on n'avait pas avant qui remontent dans la mémoire. Et ça, c'est fascinant. C'est-à-dire que les gens sont capables de redécrire des ambiances, des moments de leur toute petite enfance. Chose qu'ils ne pouvaient pas faire avant. On ne peut pas le faire avant d'avoir atteint cet âge-là. Et c'est en discutant avec des gens très âgés que j'ai découvert qu'il y avait cette frange-là qui était possible.
Mais alors pourquoi est-ce important de donner la parole aux gens? Et question subsidiaire, est-ce que c'est une marque d'un changement de société de conserver la parole des seniors? Parce que c'est ce que m'a dit le maire ce fameux jour, qu'il tenait à conserver une mémoire des anciens qui disparaissent d'année en année, forcément.
Ouais, en fait, c'est important parce que ces gens... ils sont détenteurs d'un monde qui est en train de disparaître. C'est aussi simple que ça.
Mais mondes n'ont-ils pas toujours disparu?
Le monde n'en finit pas de disparaître et de se réinventer. Mais ces gens en particulier ont connu Valdrome à un moment donné où il y avait énormément de gens qui y vivaient, où il y avait 5 épiceries, où il y avait une activité économique totalement différente. Et ce qui est intéressant par rapport à ce film-là en particulier, c'était de restaurer cette parole et ses souvenirs d'enfance et les souvenirs qu'ils avaient du village pour les confronter avec, la visite de quelqu'un lambda qui viendrait comme ça dans le village et de lui donner accès à cette parole-là et aussi aux natifs, hein, bien évidemment, et aux enfants de ces gens-là. Mais l'idée, c'était que le film puisse s'adresser à quelqu'un qui ne connaît pas du tout Valdrome et qui, à un moment donné, va avoir accès, grâce à cette parole-là et grâce à la force de l'image aussi et du son, il va avoir accès à une ambiance, un état de vie qui a totalement disparu du village. Puisqu'aujourd'hui, il y a 30 personnes qui y vivent et il n'y a plus du tout la vie qu'il y avait avant. Et ces gens-là, ils sont détenteurs d'une mémoire. Et la forme du film est un bon moyen de la rassembler, de la condenser et puis de lui redonner vie avec des photos anciennes. Et en fait, le film n'est pas uniquement qu'une prise de parole, c'est une confrontation entre ce que ces gens nous racontent et des photos anciennes. D'ailleurs, c'est vraiment un exercice particulier puisqu'il y a des choses qu'on m'a dites que je n'ai pas pu mettre dans le film parce que je n'avais pas de photos. C'est aussi l'exercice du film qui induit ça. Alors qu'en radio, on peut laisser les gens parler de tout, puisqu'il n'y a pas le support de l'image. Alors que là, pour faire un film qui se tient, pour que l'émotion fonctionne, il faut un peu de... Si je résume grossièrement, c'est expliquer ce qu'on dit et dire ce que l'on voit. Tu vois ? Il faut qu'il y ait un écho entre l'image et la parole. Et tout est là-dedans. Je pense à l'une des participantes qui s'appelle Sigondine Briançon, qui à un moment donné, pendant 20 minutes, elle parle du jour du cochon. C'est-à-dire le jour où on tuait le cochon et tout ce qu'on faisait avec la viande du cochon. Ça, c'est pas dans le film. Parce que ça prenait trop de place. J'ai essayé de le monter et de le réduire, mais sauf que j'avais pas d'image. J'avais pas de photos. J'ai cherché des photos du jour du cochon, j'avais une image, ce qui n'est pas assez pour... Voilà, pour arriver à sortir peut-être 5-6 minutes de ce récit qui est magnifique, mais il fonctionne en tant que tel. Donc là, pour le coup, le récit de Sigondine Briançon, il serait plus adapté à la radio qu'au cinéma. À l'image, ça ne fonctionnait pas, parce que tout d'un coup, il n'y avait qu'elle à l'image. Et en fait, on veut voir, on veut entendre et on veut voir quand on regarde un film. Voilà.
En tout cas, tu as fait un sacré travail de montage, puisque si tu me dis que pour 5 personnes, tu les as vues à peu près de 1 à 2 heures pour un résultat de 20 minutes, tu as dû vraiment choisir des extraits très particuliers, peut-être à cause de ces problèmes d'image, pour illustrer.
Alors, après, c'est un très gros travail de post-production et de montage, parce que l'idée, c'est d'arriver à garder la substantifique moelle de ce que chacun a dit, et en même temps, il faut qu'elle se mette en regard de ce que les autres ont dit, parce que le film est une sorte de conversation à plusieurs. Évidemment, j'ai fait des entretiens séparés, mais en fait, toutes ces personnes-là se répondent en parlant un peu des mêmes choses, quoi. Et voilà, on parle de différents aspects. On parle de la lavande dans le film. On parle de la vie du village tel qu'il était autrefois. On parle de ce destin étonnant de la plupart des enfants qui ont été dans la classe unique de Valdrome et qui, pour la plupart, sont devenus instituteurs ou institutrices ou se sont mis à travailler à la poste ou pour la SNCF. On parle, voilà, de tous ces aspects-là. Le gros travail a consisté à... Moi, j'ai l'habitude de dire qu'en fait, c'est un peu comme... mais tu dois connaître ça en radio. C'est un peu comme réduire à la poêle quelque chose que tu es en train de cuire. Au début, tu as un truc assez massif, puis ça va réduire, tu vois. Et en fait, en montage, on fait ça. J'ai cet entretien qui dure 2 heures avec quelqu'un. Et pour chaque personne, j'ai essoré vraiment les rushs. Je les ai essorés comme une serpillière pour arriver au fur et à mesure à enlever toutes les redites et à rassembler. Donc d'abord, je classe par thème. Et après, pour chaque thème, je réduis. Et ensuite, pour chaque personnage, quand j'ai obtenu, après ce long travail, quand j'ai obtenu enfin ce qui m'intéresse, je vais ensuite le confronter à ce que me disent les autres. Voilà. Et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, j'arrive à garder vraiment l'essentiel, quoi. Parce que l'idée, c'est ça, c'est de garder un peu l'essentiel. Et ce qui est intéressant avec cette formule de film, c'est que dans le film, il n'y a aucune voix off. C'est que de la parole de ces gens. Et il y a des photos anciennes, il y a des vues du village et des vues de nature, mais c'est tout. Il n'y a aucune bagnole d'aujourd'hui, il n'y a pas de gens. Les seuls humains qu'on voit, à part les seniors qui sont interviewés, c'est les enfants. L'idée, c'était de donner un aspect presque intemporel à cet ensemble-là. C'est-à-dire qu'on soit uniquement dans les vues de nature, dans les photos anciennes et dans les vues de ces gens. voilà, dans la vision de ces gens. Et c'est un cocktail qui marche. Je suis assez étonné du résultat, en fait.
En tout cas, c'était fort instructif parce qu'on ne se doutait pas que Valdrome était à ce point peuplé et industrieux il n'y a pas si longtemps que ça, quoi.
Et oui, il y a eu un âge d'or. L'âge d'or qu'on pourrait appeler de l'or mauve, hein, la lavande, où il y avait vraiment une activité économique très très intense et qui permettait à vraiment des gens très pauvres de survivre, d'envoyer leurs enfants à l'école. Et voilà, tout ça a disparu malheureusement. Elle le dit à un moment donné, Ginette Pont, qui est interviewée dans le film, elle le dit, c'est un temps que l'on regrette un peu. Mais c'est un village qui est très atypique, Valdrome. Parce que, d'abord par sa forme et la manière avec laquelle il a été construit, c'est vraiment un village dans lequel on ne croise pas de voiture, parce que tout est piéton. Ces petites rues, les petits cantons par lesquels on passe, tout ça a un charme très élémentaire, très brut comme ça, mais qui est formidable. Moi,
Et puis c'est un cul-de-sac aussi, on ne va pas au-delà de Valdrome.
Voilà, exactement. Alors si aussi on peut passer par les petits cols, on peut quand même aller. Voilà, alors on peut aller vers Saint-Dizier en Diois, puis on peut passer de l'autre côté pour aller en Haute-Drôme, mais c'est vrai qu'il y a très peu de passages. Hein. C'est vraiment une cuvette à l'intérieur duquel les gens se sont installés, ont grandi. Alors il y a encore pas mal de gens hein, qui y vivent, hein, mine de rien. Il ne faudrait pas penser que Valdrôme est totalement vide. Hein. Il y a 30 à 40 personnes à l'année, et puis après il y a des gens qui ont une activité économique. Hein. Il y a la famille de Giorgio qui fait de la lavande, il y a Nicolas Bourbier qui fait des chèvres. Et qui a une femme plus classique. Mais c'est vrai que c'est un endroit très attachant, moi je trouve, vraiment très attachant.
Alors Gabriel, comment ça s'est passé avec ces seniors qui, comme tu l'as dit au début, pourraient ne pas forcément être très à l'aise avec une caméra et s'exprimer sur leur vécu et révéler à la face du monde des choses quand même assez intimes. Je pense à cette dame qui revenait souvent sur le côté dur de la vie. C'était dur à l'époque quand même.
Ouais, Sigourdine Briançon, elle a eu une vie, je pense, d'agricultrice très très dure. La vie d'agriculteur aujourd'hui est difficile parce qu'on n'a pas d'horaire, on n'a pas de vacances, on fait que ça, on doit entretenir les animaux, la nature, etc. Mais je pense qu'à la génération de Sigourdine, c'était encore plus violent. Et puis il n'y avait pas les voitures qu'on a aujourd'hui, il n'y avait pas... Voilà, donc c'était Sigourdine, j'ai gardé l'aspect où elle dit que c'était dur, mais j'ai aussi un peu enlevé tous les moments où elle se plaint, parce que c'est vrai qu'elle a eu une manière pendant l'entretien, hein, des fois, de dire, mais c'est vrai, parce qu'elle le porte, hein, c'est vraiment quelqu'un qui a fait des efforts toute sa vie, quoi. Et puis pour ses enfants aussi, pour, voilà. Donc, Comment ça s'est passé, en fait, ce qui s'est passé, c'est que...
Ils étaient timides, intimidés.
Avant de raconter ça, je dirais que, en fait, il n'y a pas eu de problème de timidité parce qu'on a fait les choses très simplement avec Jeannot, qui est le maire de Valdrome. En fait, il a été décidé que, comme moi, je n'habite pas ici, que le tournage se ferait sur les périodes où je suis ici. Donc, la première année, on est d'abord allé en priorité faire les entretiens. Et, en fait, Jeannot m'a accompagné. Donc, moi, j'ai posé ma caméra, ces gens ne me connaissaient pas. Et en fait, au début des entretiens, il s'adressait à Jeannot. D'ailleurs, j'ai dû le mettre du bon côté de la caméra parce que sinon, il tournait. Je me souviens de Pierre Aubert, il regardait tout le temps en direction de Jeannot qui n'était pas assis à côté de moi. Donc à un moment donné, je l'ai assis à côté de moi. Et donc, il regarde quand même dans la bonne direction. Et donc, au début, il racontait tous un peu à Jeannot parce qu'il connaît Jeannot depuis longtemps. Voilà. Et puis, au bout d'un moment, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, les gens commençaient à s'adresser à moi. Voilà. Ils oubliaient Jeannot, ils s'adressaient à moi. Et c'était ça, c'était la bonne formule, je pense. Parce que justement, le fait d'être accompagné par Jeannot, ça a permis, comme ça, d'avoir quelqu'un qui connaissait et de ne pas être face à un étranger qui vient leur braquer une caméra et qui leur dit juste « racontez-moi votre vie ». Quoi. Il y avait quelque chose de plus... Il y avait un passeur. Voilà. Ginette Pont, j'y suis allé une première fois avec elle. Et là, panne de batterie. C'est-à-dire que j'ai un réflexe de citadin qui ne prend pas assez de piles. Donc, j'ai pas pu finir l'interview. On a commencé, c'est dans sa cuisine, voilà. Et puis, j'y suis retourné plus tard. Mais comme Jeannot avait déjà joué son rôle de passeur, j'ai pu y retourner tout seul. Et voilà, et là, j'ai passé un moment magnifique avec Ginette parce que c'est quelqu'un... on sent... En fait, elle doit avoir, je pense... Je n'oserais pas dire son âge à la radio, mais elle a largement plus de 80 ans. Et en fait, quand on l'écoute parler, on a l'impression que c'est encore une jeune fille. Elle a une simplicité, une fraîcheur comme ça qui est magnifique. C'est vraiment une très belle personne.
Et à ton avis, qu'est-ce qu'ils en ont retenu de cette expérience, eux ? Est-ce qu'ils sont contents ? Tu ne leur as pas posé la question parce que tu les as revus depuis.
Oui, alors André Marin a vu le film, Ginette Pont aussi, Pierre Aubert, Pierre Magnan, Sigondine Briançon, elle viendra le voir dans quelques jours avec sa fille, parce qu'elle habite plus en Vadrome, elle est en maison de retraite à Châtillon. Donc tous m'ont fait de magnifiques retours. D'ailleurs, je crois que autant pour les gens que j'ai filmés que pour les gens du village, donc les descendants qui étaient là le 16 août, parce que Vallerome, c'est un village qui se remplit pendant un mois, entre le 15 juillet et le 15 août. C'est là où il y a le plus de monde chaque année. Tous les descendants reviennent dans les maisons de la famille, etc. Et il y avait tous ces gens-là réunis le jour de la projection, qui était vraiment un très beau moment. Et ils ont, je crois que de ma petite carrière, je n'ai jamais fait un film qui corresponde autant à son public. C'est-à-dire que je n'ai eu que des retours émerveillés et très, très touchants. Les gens ont vraiment... Ils le diraient mieux que moi, hein, mais les gens ont vraiment... Ils se sont reconnus sur les photos, ils ont reconnu leur famille. Parce qu'évidemment, moi, je suis allé chercher dans les archives familiales à la fois des gens que j'ai filmés, mais aussi d'autres personnes. Et donc, on reconnaît énormément de gens. La plupart de ces gens ont disparu, bien sûr. Mais eux, ils reconnaissent. Donc, ils reconnectent. Même des gens aujourd'hui de la famille Aubert, de la famille Montlahuc ou de la famille Élémanian. Voilà. Et tous ces gens-là, ben, même les enfants aujourd'hui, là, ils ont reconnu leurs parents, soit leurs grands-parents, soit leurs oncles, soit leurs tantes. Voilà. Donc, le film, de ce point de vue-là, il a vraiment répondu à la demande, je pense. Hein. Je pense que la commande a été réussie, d'autant plus avec cette projection devant tout le monde sur la place du Fossé, où c'était très émouvant d'avoir tout le monde. Et puis les gens se sont bien retrouvés. Les descendants de Pierrot Magnan, ils ont beaucoup rigolé en l'écoutant, parce qu'il a des expressions, il a... Voilà.
Tu as été très discret, comme tu le dis. À quelques reprises, ceci dit, tu as relancé en posant cette petite question. Si vous étiez parti au loin, comment parleriez-vous de Vallerome ? Ils ont tous eu leur mot à eux pour exprimer ce qui est apparemment un vrai amour pour leur terroir. Est-ce que toi, tu en serais arrivé aussi à cet attachement, à ce petit bout de territoire ?
Alors, c'est une très bonne question. En fait, moi, quand je fais un film, j'essaye de trouver des raisons intimes et personnelles qui me donnent envie de faire le film. Même quand c'est une commande, je cherche à l'intérieur de moi qu'est-ce qui va me toucher. Alors là, il y avait le plaisir de cinéaste, parce que je savais que j'allais le tourner tout seul avec mon appareil photo et que j'allais m'éclater à l'emmener en balade, à faire des time-lapse, c'est-à-dire des effets d'accéléré comme ça sur les nuages, parce que c'est très beau ici, et puis voilà. Mais il y a aussi un truc qui est directement relié à mon expérience de vacancier à Vallerome. C'est qu'en fait, moi, je suis fou de ce village. J'y viens une fois par an et je sauve ma vie en venant là. C'est-à-dire que je suis enfin dans un environnement... D'habitude, j'habite en plein centre-ville. Avec mon fils, on est entre l'autoroute, le boulevard et la voie ferrée. Et là, tout d'un coup, on se retrouve dans un paradis qui correspond pour moi au lieu idéal où je voudrais passer mes vacances, c'est-à-dire un mélange parfait entre le sud et la montagne. C'est-à-dire qu'il y a des grillons, il y a des pins, et en même temps, il y a de la forêt, et en même temps, il y a la station de ski, et en même temps, il y a de quoi faire de la marche, et en même temps, on est dans le sud. Et pour moi, qui suis né à Valence, qui ai passé toutes mes vacances de môme sur la Côte d'Azur et qui en même temps ai grandi à Grenoble, pour moi, Vallerome, c'est la symbiose parfaite de ce dont j'ai besoin. Et je retrouve, quand je viens en vacances à Vallerome, des sensations d'enfance sur la perception du temps, sur le fait que, tiens, c'est une journée après l'autre, et puis on ne sait pas trop quand vont se terminer les vacances, et voilà. Donc j'adore ça. Et par contre, il faut que j'arrive à relier ta question.
Est-ce que toi, tu en es arrivé à cet attachement ?
Ben, c'est ça. Et en fait, moi, j'essaye d'amener des amis. J'aimerais bien qu'il y ait des amis de Strasbourg ou d'ailleurs qui viennent à Vallerome. Et donc, la question que je pose aux gens qui sont interviewés dans le film, la question est la suivante. C'est, je leur dis, imaginez que vous soyez très loin, en voyage, et que vous rencontrez quelqu'un qui ne connaît rien à Vallerome. Comment vous lui parleriez de ça ? Qu'est-ce que vous diriez ? Et en fait, l'idée qui est derrière ça, c'est que moi, j'ai le même problème pour arriver à en parler à d'autres gens et les convaincre de venir, pour qu'ils viennent aussi profiter de ça, quoi. Donc au fur et à mesure, chaque année, j'arrive à amener de nouvelles personnes qui ensuite deviennent addictes. Elles sont accros au lieu, quoi. Au fait de pouvoir partir en balade depuis la maison. Elles sont accros à l'eau. Ici, il y a une qualité d'eau qui est extraordinaire. Je pense que quand on habite ici, on ne se rend pas compte de l'eau auquel on a accès, parce qu'on ne boit pas l'eau des villes, qui est chlorée à mort, qui est en plus en Alsace bourrée de calcaire. Et là, moi, l'eau de Valdrome, je pourrais en boire des dizaines de litres par jour sans problème. Le goût de cette eau est extraordinaire.
Bon, sans insister, je vois que tu es un Valdromois convaincu. Je voudrais revenir sur un autre petit point, parce que tu avais parlé de la simplicité quand je t'ai posé la question de savoir si tes interviewés n'ont pas été trop intimidés.
L'intimidation, elle disparaît au bout d'un moment quand tu prends le temps d'être avec les gens. Si tu es une équipe de télé comme ça qui n'a pas le temps, chose que moi j'ai dû faire aussi parce que je travaille pour France 3 régulièrement, c'est pas le même rapport aux gens. Mais quand on vient pour un entretien de documentaire, d'abord on rencontre les gens sans caméra, quand on en a la possibilité. Et c'est important que les gens vous voient sans caméra. C'est une manière de se rencontrer, on existe en tant que tel. Et ensuite, on revient avec une caméra, et là, on peut filmer.
C'est intéressant ce que tu viens de dire, mais je sais où est-ce que je voulais en venir, et c'était tout simplement parce qu'à mon avis, tu avais oublié un élément essentiel du mix qui fait tout le charme du Diwa et de Valdrome, et que tu as dit à propos de Ginette, je crois, ça se voit la simplicité,
ouais,
et une convivialité aussi.
Ouais, c'est vrai.
Est-ce que cette convivialité qu'on ressent, parce qu'ils ont tous leur franc-parler, hein.
Ouais.
Même celle qui dit « Oh, c'est la vie est dure », bah, elle le ouais. dit, mais elle le dit, quoi. C'est pas de chichi, quoi.
Ouais.
Est-ce que ça fait partie aussi des qualités que tu retrouves dans ce Valdrome-là ?
Absolument. Alors, c'est assez paradoxal, parce qu'à la fois, les gens vivent en campagne, donc on n'a pas le même rapport social dans le rapport qu'on peut avoir avec les autres que quand on est en ville. Moi, je le remarque. Par contre, ici, ce qui est formidable, c'est qu'à partir du moment où vous avez dit bonjour à quelqu'un, vous pouvez discuter avec cette personne. Ça, c'est super agréable. Après, la convivialité telle que moi je l'entends vivant en Alsace, ici c'est pas la même. En Alsace, on va inviter les gens chez soi, etc. Ici, c'est pas la même chose. On va avoir un rapport de convivialité basé sur la franchise, sur le fait de rendre service, etc. Mais c'est pas le même degré, c'est pas la même chose. C'est aussi bien, mais c'est pas pareil. Mais oui, les gens ont été...
Par exemple, toi, en tant que... Bien sûr, ça va changer certaines choses, le fait que tu aies fait ce petit film documentaire. Est-ce que tu avais déjà eu l'impression d'être accepté par ces personnes qui vivent toute l'année, en tant que personne qui passe seulement un mois ?
Il faut du temps. Il faut, comme partout, je crois qu'il faut du temps. Il y a des gens avec qui je parle dans le village, à qui je dis bonjour depuis des années. Mais par contre, il y a eu la fête, là, et puis oui, effectivement, de nouveau, on s'est remis à parler, et là, on se connaît un peu mieux. Mais il faut du temps. Mais je crois qu'aussi, tous les gens qui viennent à Valdrome, et qui ne sont pas natifs de là, ils viennent pour se reposer, pour se retrouver entre soi aussi, avec ses amis, avec sa famille. Donc ça joue aussi beaucoup, ça.
Alors, tu m'as dit que c'était une commande du maire de Valdrome, Jeannot Aramburu. Quelle destination prévoyait-il pour ce documentaire ?
En fait, le temple protestant de Valdrome nécessitait une rénovation. Donc ce qui s'est passé, c'est que dans le cadre des subventions européennes du programme LEADER, qui ont été donc déclenchées pour financer le temple, dans le projet, il y avait un volet autour du film. Et donc, moi j'ai profité de ce volet-là pour produire le film, donc filmer, prendre le son, faire tout le montage, payer un mixage professionnel dans un vrai studio nickel à Strasbourg, un studio professionnel. Il y a eu l'étalonnage aussi, toutes les étapes du film, et aussi l'installation d'un écran dans la sacristie. Parce que l'idée, c'est que le film, il est visible en permanence dans la sacristie du temple. N'importe qui peut monter à Valdrome et aller voir le film. Il y a un écran, une petite notice scotchée sur la porte avec une télécommande. On appuie et hop, le film démarre et on peut profiter du film. Et c'est dans ce contexte-là que le film a pu être financé, en fait.
Donc ça, c'est sans limitation de durée, dans 10 ans, il y a encore.
Ouais. Le film appartient à la commune de Valdrome. La commune de Valdrome s'est acheté un film sur l'histoire de son village. Maintenant, elle en est la propriétaire. Je voudrais aussi rajouter une chose, c'est que dans le film, il y a une musique qui a été faite par un groupe qui s'appelle Bez Orchestra, B-E-Z Orchestra. Ils sont à Manglon. Donc c'est Chloé et Sébastien qui ont créé ce groupe, Blaze Orchestra. Ils ont un autre groupe qui s'appelle Cloug. Et un peu par hasard, j'ai découvert cette musique pendant le tournage de film. Et je me suis dit que la musique avec des reflets un peu traditionnels que faisait Blaze Orchestra était parfaite pour le film. Et en fait, je les ai contactés. Et ils ont, sur les petites maquettes que moi j'avais faites, ils ont réenregistré leur musique pour le film. Donc le film a une musique originale faite par des gens du coin. Eux aussi ont profité, puisque je l'ai acheté leur musique, donc eux aussi ont profité de ces subventions leaders qui ont été débloquées pour le temple et pour le film.
Donc c'était un budget digne de ce nom.
C'était un budget tout à fait correct.
Alors, est-ce que d'aventure, parce qu'on n'a pas parlé, j'étais direct au début, j'ai embrayé direct sur Valdrome entre ciel et lavande, j'ai pas éprouvé le besoin que tu te situes, tu l'as fait tout en parlant, sur ton métier de réalisateur, mais peut-être que ça pourrait intéresser d'autres personnes, après avoir vu ton film ou en entendant cette interview, de voir d'autres productions que tu as pu réaliser. On peut trouver ça sur un site, sans doute ?
Alors moi, j'ai un site qui s'appelle gabrielgoubet.com. Tout simplement. Et j'essaye sur ce site de mettre un maximum de choses en ligne. Donc comme j'ai une activité pluridisciplinaire en tant que réalisateur, c'est-à-dire que je fais à la fois du multicaméra pour la télévision, des projets personnels, des documentaires, je réalise aussi des publicités, des films institutionnels, etc. J'ai joué la carte de mettre un maximum de choses en ligne. Et le film Valdrome entre ciel et lavande sera visible sur mon site et sur Vimeo, puisque bien évidemment, l'idée, c'est qu'il soit vu au-delà de la région, quoi. Donc il sera sur Internet.
Il sera aussi sur la page de l'émission, car nous pouvons intégrer une vidéo Vimeo, ça pour nos éditeurs. Ce sera parfait.
Une nouvelle formidable.
Voilà.
On n'arrête pas le progrès.
Très bien. Alors, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, Gabriel, sur cette expérience ?
Sur cette expérience, non. J'ai dit pas mal de choses. Qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Moi, j'aurais envie de te parler de la station de ski.
Ah, c'est vrai, c'est d'actualité parce qu'il y a une pétition qui tourne en ce moment pour faire en sorte qu'elle ne se ferme pas.
Il y a une pétition sur change.org pour soutenir la durabilité de la station de ski, notamment l'hiver, puisqu'il y a une fronde parmi les conseillers départementaux de droite de la Drôme pour que cette station ne soit plus opérationnelle l'hiver. Quand on connaît un tout petit peu le contexte économique mondial, national, mais surtout très local de Valdrome, on se rend compte très vite que cette station, elle est essentielle. Parce qu'elle permet d'abord des emplois directs, ensuite des emplois induits, et elle permet la maintenance d'une activité économique au sein du coin de Valdrome. Et puis ça permet aussi à plein de mômes de faire du ski, d'apprendre le ski. Le ski, c'est devenu un sport de bourgeois. Je peux en parler. Moi, je vais aux arcs tous les ans. J'ai les moyens d'offrir à mon fils des cours de ski. Et c'est un sport extraordinaire, le ski. Et c'est un vrai luxe que de pouvoir le pratiquer encore, même si c'est c'est un mois et demi par an ou deux mois. C'est un luxe de pouvoir le pratiquer dans la Drôme. Et je pense que c'est la sauvegarde et même le développement, parce qu'il ne s'agit pas de maintenir. Il s'agit de développer cette station. C'est essentiel pour tous les gens qui vivent dans ce coin-là.
Sachant que la logique strictement comptable, le déficit de 400 000 euros peut se réfuter assez facilement avec effectivement tous les avantages secondaires, les bénéfices induits par la présence d'une activité pérenne l'hiver et donc l'été.
Non seulement ça, mais en plus, le chiffre avancé, il n'est absolument pas détaillé. 400 000 euros, c'est une vue de l'esprit, ça ne veut rien dire du tout. Tout ça est parti, je le redis, de conseillers départementaux qui, à un moment donné, pour des raisons purement politiques, veulent installer leur pouvoir. Les 400 000 euros, il faudrait voir dans le détail ce que ça veut dire. Moi, j'y crois pas. Moi, je ne crois pas que cette station elle coûte si cher. C'est pas vrai. Moi, j'y crois pas du tout. Il faut regarder dans le détail ce que ça coûte. Et il faut regarder surtout dans le détail ce que ça coûterait d'arrêter l'activité. Parce que vous allez avoir des installations, des téléskis, un restaurant, etc. Tout ça va tomber en désuétude si ce n'est pas entretenu. Et ça va coûter encore plus cher si ça se détériore. Donc, c'est une connerie.
Payer un assistanat à X personnes parce qu'elles n'auront plus de travail. On reconnaît là tout à fait, Gabriel, ton attachement à ce petit village avec cette harangue pour le maintien de cette station. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Est-ce que tu nous quitterais avec un dernier petit mot ?
Un dernier petit mot, moi j'aimerais remercier à la fois les gens du village, mais en particulier Jeannot, le maire, Bernard Gazonnet, qui est celui qui a eu un peu l'idée du film, par qui c'est venu, mais c'est toujours, c'est la vie, c'est comme ça, on discute dans un coin de rue, puis il y a des choses qui naissent. Et puis je voudrais remercier tous les cinq personnes qui ont participé au film. Donc évidemment André Marin qui joue le rôle un peu du fil conducteur, Ginette Pont et Sigondine Briançon, et puis Pierre Aubert et Pierre Magnan qui ont été tous les cinq de magnifiques personnes au moment de ce tournage. Et j'espère que le film, en tout cas je me suis vraiment attaché à faire le film comme ça, j'espère que le film dans plusieurs années pourra être encore vu avec plaisir.
C'est très subjectif, mais je le vis ce 16 août et je fus comme tout le monde touché par la spontanéité, l'authenticité de ces personnages. Il y a une standing ovation même, hein, rappelle-toi, donc je pense que c'est un bon film.
À très bientôt.
À bientôt Gabriel.
Salut. Au revoir. Louis, bye bye.
Interview.